France Inter, le 18-20.
Une semaine en France avec le professeur de sciences politiques Vincent Tibéry ce soir. Il publie aux presses universitaires de France, dans la collection La vie des idées, Extinction de vote, point d'interrogation. Un livre destiné à nous faire réfléchir à ce que représente l'acte de voter, sa signification, son histoire, sa portée, à un moment où les urnes sont parfois boudées. Nous irons dans l'Aisne, dans une petite commune où la vie sociale s'amenuise et où les urnes se vident.
On fait plus rien, on reste chez soi. C'est facile à remuer quand il y a des gens qui se rassemblent et qui ont des idées en commun, mais quand il n'y a plus rien...
Quand il n'y a plus rien, on reste chez soi et on vote de moins en moins. Pourtant, certaines élections... Alors pourquoi certaines élections attirent-elles plus que d'autres? Pourquoi certains électeurs votent-ils plus que d'autres? Quel est leur profil? Autant de questions que nous poserons à notre invité, qui est un spécialiste de sociologie électorale. Ensuite, comme chaque vendredi, ce sera l'actualité de la semaine, largement dominée une fois encore par la gestion de la crise sanitaire, qui a tendance à prendre toute la place dans la campagne et à tendre les relations sociales.
Moi, personnellement, ce que je trouve difficile, c'est d'admettre que je suis vaccinée. Avec les personnes que je fréquente, c'est un peu bizarre. Je dois me justifier. C'est pas simple.
Un reportage à Dieu le fit dans la Drôme, à suivre. On parlera aussi du paysage politique actuel. Y a-t-il vraiment droitisation, voire extrême droitisation de la société? Pas si sûr, nous dira celui qui a mis au point pour la Commission nationale consultative des droits de l'homme le fameux indice longitudinal de tolérance. On évoquera aussi le parcours de Vincent Tibéry qui se bat pour démocratiser l'accès à Sciences Po à Bordeaux où il travaille. Il a réussi à modifier les algorithmes de Parcoursup pour diversifier le recrutement des étudiants. À 19h, le journal d'Hélène Filly, à 19h20, le téléphone sonne. Passe sanitaire, passe vaccinale, pourquoi tant de haine? On parlera des agressions contre les élus, mais aussi contre les soignants, contre les centres de vaccination. Alors, n'hésitez pas à nous appeler au 01 45 24 7000. D'avance, merci à nos standardistes, à Irène Menahem qui m'a aidé à préparer cette émission, à Juliette Gou qui la réalise, à Philippe Duclos, Fabrice Desmaz, Henri Bérec qui sont à la technique, ainsi qu'à Magdalena Hervada pour la page web.
Claire Servageant. Une semaine en France.
Bonsoir Vincent Tibéry.
Bonsoir.
Bienvenue à France Inter. Vous publiez avec Tristan Haute aux presses universitaires de France, dans la collection La vie des idées, un ouvrage collectif intitulé Extinction de vote. Et il y a un point d'interrogation à la fin, c'est important. Un tel ouvrage n'arrive pas par hasard, évidemment, à 3 mois de la présidentielle, à 5 mois des législatives. Est-ce que vous diriez, peut-être pour commencer, que la présidentielle, c'est un petit peu l'exception qui confirme la règle en matière d'abstention?
Alors effectivement, si vous reprenez les niveaux de participation depuis le début de la Ve République, la présidentielle fait généralement le plein, même en 2002, par exemple. Et même si on y réfléchit, si on réfléchit au niveau individuel, on se rend même compte qu'il y a de plus en plus de gens qui votent à la présidentielle, en tout cas qui votaient à la présidentielle. Il faut bien se poser la question de, est-ce que la présidentielle qui vient va avoir la même capacité à mobiliser, à créer de l'effervescence électorale? Ça va être un vrai enjeu.
C'est une vraie question. Donc la présidentielle, jusqu'à présent, attirait beaucoup les électeurs. On ne peut pas en dire autant des autres scrutins. On va prendre l'exemple des régionales, des départementales de juin dernier. Là, ça a été extrêmement important, l'abstention.
Alors, effectivement, après, il faut bien réfléchir à ce que ça signifie, cette abstention. Il fut un temps, quand on analysait l'abstention dans les années 60, on voyait l'abstention comme étant un manque d'intégration ou en tout cas une incompétence de la part des citoyens. Aujourd'hui, l'abstention, elle a changé de nature. Elle est devenue beaucoup plus importante, et puis surtout, c'est pas de l'abstentionnisme systématique, c'est de l'abstentionnisme intermittent. Ce qui veut dire qu'en fait, les électeurs se déplacent à certaines élections et pas à d'autres. Vous faites un référendum en 2005 sur l'Europe, vous réussissez à se déplacer 69% des électeurs.
Les régionales et les départementales, on rappelle simplement, parce que, alors c'est vrai qu'on était déjà dans la crise sanitaire en juin dernier, moins d'un tiers de votants chez les jeunes, abstention record, près de 90% d'abstention.
Ouais. Et alors, ce qu'on peut se dire, c'est qu'en plus derrière, c'est aussi des changements de culture du vote. C'est-à-dire qu'on a eu des générations, des cohortes nées avant-guerre et même dans l'immédiate après-guerre, dans les années 40, qui continuent à voter par devoir. C'est de moins en moins le cas à mesure que le renouvellement générationnel s'opère, et notamment parce que le vote ne suffit pas. C'est ce qu'on dit dans l'introduction, le vote est nu parce que très souvent il est conditionné au fait d'élire, il est conditionné au fait de choisir un candidat. Et vous avez en fait désormais de multiples autres manières de participer. Par la pétition, par les boycotts, par les likes, par les réseaux sociaux, etc.
Ça c'est pour les plus jeunes.
Pour les plus jeunes. Et puis surtout, il faut bien avoir en tête du coup que avec une participation qui régresse, avec une abstention qui progresse, les inégalités sociales et de génération progressent elles-mêmes. Jean-Yves Dormagen et Céline Braconnier avait peur qu'une majorité sociale devienne une minorité électorale. Et c'est effectivement vrai quand vous regardez ce qui se passe dans les quartiers, c'est ce qui se passe aussi dans les catégories populaires. Mais en termes de génération, il y a aussi quelque chose de très très important en train de se jouer. Typiquement pour ces régionales, on avait les plus de 65 ans pesaient 1,5 fois leur poids démographique quand on les voyait dans les urnes. Les moins de 35 ans, c'était 0,5 fois. Autrement dit, ils pesaient deux fois moins. Et à noter que c'est pas une histoire de jeunesse. Ça touche aussi désormais des électeurs de ma génération qui ont une quarantaine d'années, voire qui se dirigent progressivement vers les 50 ans. En fait, derrière, c'est un changement d'attitude globale à l'endroit du vote.
Vous classez les électeurs en quatre catégories, Vincent Tibéri. Les non-participants, les multiparticipants, les électeurs, les protestataires, est-ce que j'ai bien lu ?
Tout à fait. Les électeurs, c'est notamment ces citoyens très cohérent à l'endroit de la Ve République. C'est des gens qui n'envisageaient la participation citoyenne qu'à travers le vote, qui étaient aussi dans une forme de culture de remise de soi. C'est Bourdieu qui en parlait dans les années 70. Et effectivement, on continue à voir cette culture travailler. Et donc, quand on vote, c'est notamment parce qu'on se sent pas forcément la possibilité d'être un citoyen un citoyen complet. Et donc, on préfère choisir un élu qui va nous aider. Quelque part, ça renvoie aussi à la figure tutélaire d'un général de Gaulle, ça renvoie au monarque républicain, ça renvoie à ce leader qui est capable de guider le peuple. Cette figure-là, elle est caractéristique des gens nés dans les années, avant les années 40, et très clairement, elle est en train de disparaître au profit de nouvelles manières de participer. Alors effectivement, il y a les multiparticipants qui donc du coup sont d'ailleurs très fortement présents dans les cohortes du baby-boom, et qui donc vont utiliser tous les moyens d'action possibles. Il y a désormais également, et c'est beaucoup plus dominant dans les jeunes générations, ce que j'appelle les protestataires. C'est-à-dire des gens qui, parfois, vont voter, ou au minimum ont un rapport intermittent au vote, mais surtout vont se saisir des autres moyens d'action pour pouvoir s'exprimer. Et après tout, c'est vrai que c'est un vrai souci du vote. Le vote, une fois qu'on s'est exprimé, qu'on a donné notre voix ne nous appartient plus. C'est-à-dire que l'interprétation de la voix, elle est faite par les journalistes, elle est faite par les responsables politiques, par les politistes comme moi, mais effectivement, quelque part, quand vous participez à une manifestation, votre message vous appartient. Et enfin, il y a quand même quelque chose de très important, c'est ces non-participants. Ces non-participants qui progressent avec le renouvellement générationnel, qui sont les non-diplômés parmi des générations diplômées, qui sont les moins ancrés dans les collectifs, les associations, etc. Et là, on voit émerger, on voit même progresser des inégalités sociales de participation au sein des jeunes générations particulièrement préoccupantes.
Alors pourquoi certains renoncent à voter justement ? Pas forcément par opposition, parfois par désillusion, en se disant que ça ne sert pas à grand-chose, que ça n'aura peut-être pas d'impact sur le quotidien. À l'affaire, dans l'Aisne, 2800 habitants, l'abstention avait atteint 37% au premier tour en 2017 à la présidentielle. Pas sûr que la mobilisation soit plus importante cette année. Julien Morcelli est retourné sur place. Reportage.
Depuis la fermeture de la caserne militaire en 1993, entraînant le départ d'un millier de soldats, certains habitants comme Sylvie sont désenchantés.
Avant, c'était une pharmacie. Les magasins, ils ouvrent et 6 mois après, ils referment.
Elle revient de l'agence Pôle emploi.
Je viens d'être licenciée là. J'étais agent d'entretien.
Sylvie n'ira pas voter au mois d'avril. Chantal, qui va chez le médecin, en connaît d'autres.
On fait plus rien, on reste chez soi. C'est facile à remuer quand il y a des gens qui se rassemblent et qui ont des idées en commun, mais quand il n'y a plus rien...
Au bout de la rue, les bras chargés de brioches, Aurélie et Isabelle sortent de la boulangerie. Elles font partie de l'association des parents d'élèves.
On a eu peur en début d'année scolaire de devoir fermer l'association.
On fait des réunions pour organiser par exemple un marché de Noël. On a 2 parents qui viennent sur 110 élèves.
Même Marie-Noël Villain, mère sans étiquette de l'affaire, est à court d'idées.
Quand on organise du théâtre, plein de choses. On a fait une exposition, il y a eu très peu de personnes, alors que c'est gratuit. Nous nous battons pour garder la gendarmerie, les heures de la poste, elles ont baissé.
Ces fermetures de services publics accentuent le repli sur soi, selon le politologue Tristan Hoth.
On résume l'abstention à des modalités techniques. Les procurations, le vote électronique, le facteur principal de l'abstention, c'est le lien social. Et ce qui participe à la déstructuration du lien social, c'est la pauvreté en général.
Pour l'universitaire, il faudra du temps avant de renouer le lien entre ses électeurs déçus et les candidats à la présidentielle.
Un reportage, Julien Morcelli. Vincent Tibéri, on a entendu votre co-auteur Tristan Haute dans ce reportage. Le vote est lié à l'implication sociale, à la vie dans la cité, à l'intégration?
Alors ça l'a été. C'est notamment ce que Alain Lancelot racontait dans les années 60. On voit que ça continue à l'être, notamment dans certains milieux sociaux, dans les quartiers et donc effectivement dans le périurbain. Il faut aussi avoir en tête que, en fait, ça tient aussi au fait que le vote, parfois, c'était du collectif. Le vote, c'était toutes ces micro-pressions qui faisaient que...
Parce qu'on était dans un syndicat, parce qu'on était impliqué dans des groupes.
Parce qu'on avait des parents, parce qu'effectivement, il y avait un collectif de travail qui amenait effectivement les gens à se saisir des enjeux, à se rendre compte que ce qui se passait dans les élections pouvait les affecter directement, et donc les permettait de se politiser. Et c'est d'ailleurs ce que montre très bien Tristan Haute dans son chapitre, c'est la manière dont progressivement la détérioration de ces collectifs de travail, la détérioration des conditions de travail, des contrats de travail, aboutit effectivement à ce que des individus ne se rendent plus compte de ce qui peut se jouer au moment des élections. Et c'est quelque chose qu'on retrouve à d'autres endroits. Typiquement, on se rend compte que les ouvriers du baby-boom ont grandi et ont travaillé dans des situations où il y avait des syndicats, où il y avait des collectifs de travail, et donc du coup ils se mobilisaient, y compris par la manifestation, y compris par la grève, etc. Or progressivement, les ouvriers post-baby boom, les ouvriers millennials, eux se retrouvent dans des situations où ils disparaissent à la fois des urnes et à la fois du mouvement social. Et donc là aussi, ce trou noir démocratique doit nous interroger.
Alors à propos de mouvement social, il y a eu les gilets jaunes, et même si certains remettent en cause aujourd'hui le vote en tant que tel, son utilité, notamment à travers notre démocratie représentative, il y a la revendication du RIC qui revient sans arrêt. Ça veut dire qu'on est quand même encore attaché au vote pour ceux qui le réclament.
Quand on y réfléchit, effectivement, Ronald Engelhardt disait que le vote, c'était l'exemple type de la participation dirigée par les élites. On peut même rajouter que le vote, quelque part, dans la manière dont il exerçait en France, a une fâcheuse tendance à minoriser les citoyens. Dire qu'on leur donne le droit à la parole à un moment donné, un dimanche, et puis après c'est fini. Théoriquement, on ne les consulte plus. Probablement une des figures qui aboutit à ce que le vote soit moins accepté, c'est justement cette équation voter égale élire. Si on faisait du vote autre chose que simplement une élection de représentants, c'est-à-dire une remise de soi des représentants, si on faisait que le vote se passe à travers des référendums, et des référendums intéressants, hein, pas des référendums techniques, mais des référendums comme on a pu en voir aux États-Unis sur la légalisation du cannabis, sur la peine de mort, sur le mariage homosexuel, sur le salaire minimum. Vous avez un certain nombre d'électeurs américains qui ont voté sur le salaire minimum. On l'augmente ou pas, ou on le crée ou pas.
Comme le font les Suisses presque tout le temps.
Alors, ça peut être un contre-exemple, les Suisses, je vais y revenir. Mais du coup, effectivement, on peut ramener des gens aux urnes dès lors qu'on considère que leur expression aura un sens.
Il y a beaucoup de choses dans votre livre. Il y a notamment un chapitre sur le vote blanc. C'est une revendication. En deux mots.
C'est une reconnaissance dont parle Jérémy Mouallec. Il montre effectivement que pendant un temps, le vote blanc s'était considéré comme une erreur dans le comptage et la comptabilisation des suffrages. Désormais, on se rend compte que c'est aussi un vote à message, le vote blanc. C'est un vote d'attachement au rôle de citoyen et dans le même temps de refus de l'alternative. On retrouve encore une fois cette équation et voter égale élire. Et donc effectivement, il y a un besoin, une volonté effectivement que ce vote blanc soit reconnu. Désormais, on peut le comptabiliser, mais vous voyez bien dans la dramaturgie d'une soirée électorale, on va passer une demi-heure sur l'abstention, après on va dans les QG, on va jamais regarder les votes blancs. Alors même que beaucoup de choses pouvaient se jouer dès 2017 quand vous regardiez les records en termes de votes blancs qui avaient marqué le second tour.
Voilà, il y aurait encore beaucoup de choses à dire, y compris sur le vote par procuration, le vote électronique, on y reviendra sans doute, Vincent Tibéri, au cours de cette émission. Mais on va passer maintenant à l'actualité de la semaine, grâce à ce mix qui a été mis en onde par Anne-Cécile Perrin. À la une cette semaine, le fiasco des protocoles dans l'éducation nationale.
On a eu 3 changements de protocole au fil de la semaine. C'est juste impossible. Le ministère nous dit, c'est tellement compliqué, on va vous aider, on va vous expliquer. Non, on a compris. Tout le monde comprend le protocole, c'est pas le souci. Le seul souci, c'est qu'il est inapplicable.
Il est très rare que même les inspecteurs de l'éducation nationale montent au créneau et se mettent en grève. Mais trois protocoles différents en quelques jours, c'était trop.
C'est un peu dur parce qu'on n'est qu'à contact tout le temps.
On peut les remettre s'ils sont négatifs à l'école. Puis après, à J+2 en autotest et à J+4, toujours pareil, autotest.
J'ai demandé de pouvoir recourir à trois autotests.
Tiens, le Premier ministre, journal de 20h pour une énième modification du protocole.
J'ai entendu les inquiétudes qui s'expriment.
Il est où le ministre de l'Éducation? Ah oui, Jean-Michel Blanquer avait colloque anti-woke ces derniers jours. Et puis, cette crise, ça commence à bien faire.
Nous préférions qu'il n'y ait pas le virus, nous préférions qu'il n'y ait pas une telle complexité des choses.
N'empêche, la grève est massive.
Je n'ai jamais fait grève, non. C'est vraiment la première fois depuis 33 ans.
Et ce n'est jamais bon signe quand Gabriel Attal doit monter au créneau pour affirmer le soutien du gouvernement à un ministre.
Je redis évidemment notre soutien au ministre de l'Éducation nationale dans ce contexte.
Un contexte de tension tous azimuts, avec des élus de plus en plus souvent pris pour cible par les opposants au pass vaccinal.
Il y en a un qui m'a arraché le masque que j'avais sur la figure en me disant « le virus n'existe pas ».
Stéphane Clairaut, député En Marche de Saint-Pierre-et-Miquelon.
En plus des DG d'algues, c'est des insultes. Et vous avez en face de vous des personnes dont le visage est tellement déformé par la haine que vous n'arrivez à presque plus les reconnaître.
Je sais qu'il y a de la lassitude, je sais qu'il y a parfois de l'énervement. Je pense qu'il faut qu'on s'arme tous un peu de patience, de bienveillance.
Le président ne doit pas parler comme ça, ne doit pas diviser les Français entre eux.
J'espère qu'il sera viré au mois d'avril.
La présidentielle, c'est dans 3 mois. Certains courent encore après leur parrainage.
J'approche les 400 signatures, mais ce n'est pas 500.
Aux toutes dernières nouvelles, c'était plus de 400.
Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, Éric Zemmour, qui représentent une part significative de l'opinion, doivent pouvoir se présenter à l'élection présidentielle.
Le président du Sénat, Gérard Larcher.
Parrainer n'est pas soutenir.
Soutenir, c'est ça.
J'ai pris la décision de soutenir Éric Zemmour.
Lui, c'est Guillaume Pelletier. Il a décidé de quitter LR. Réaction de Marine Le Pen.
Emmanuel Macron. Eh ben, ça m'étonne pas de lui.
Retour aux sources pour celui qui avait commencé au FN, puis était passé chez Philippe de Villiers. Bon vent, lui dit aussi Valérie Pécresse.
Je lui souhaite bonne chance parce qu'en général, ceux que soutiennent Guillaume Pelletier ne gagnent pas les élections.
À gauche, rien de nouveau à part Christiane Taubira qui semble être la seule désormais à attendre quelque chose de la primaire populaire.
Je proclame que j'accepte les règles de la primaire populaire.
Car les autres n'ont pas l'intention d'en faire autant.
Quand c'est non, c'est non.
Pour l'instant, ils sont donc toujours aussi nombreux sur la ligne de départ. Le casting est presque complet. On attend encore la déclaration officielle de candidature du président. Mais même madame assure ne pas savoir.
J'ai entendu qu'il en avait envie et qu'il n'avait pas pris sa décision.
C'est cela, oui.
Donc, comme vous, j'attends.
Le mot de la fin pour ceux qui ont fait la une cette semaine dans les écoles et devant les pharmacies. Pour eux aussi, ça commence à faire long.
En 2020, on disait « Ah, demain, ça sera fini le Covid-19 » et puis le lendemain, « Allez, on recommence, on a menti hier. »
Et encore un grand merci à Anne-Cécile Perrin. Une semaine en France avec Vincent Tibéry, professeur à Sciences Po Bordeaux, chercheur au Centre Émile Durkheim, spécialiste de sociologie électorale et des comportements politiques. Je voudrais qu'on dise un petit mot des parrainages. Vincent Tibéry, certains estiment que 500 parrainages, c'est trop, surtout quand on ne peut pas rester anonyme.
Alors oui et non, hein, les parrainages, ça avait été mis en place notamment théoriquement pour empêcher les candidatures folkloriques.
Au départ, c'était sans parrainage.
Au départ, c'était sans parrainage. Ça avait donné beaucoup de candidats en 74. En fait, finalement, on a eu beaucoup de candidats dans les élections qui ont suivi avec 500 parrainages. Moi, ce que je trouve quand même intéressant, c'est ce que ça nous raconte de notre culture politique. Je vous disais tout à l'heure qu'il y a une minoration des citoyens. Mais on a le même problème sur les parrainages, quelque part. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien imaginer effectivement que les candidats soient parrainés par des citoyens, avec un nombre conséquent de citoyens, voire même on pourrait envisager des parrainages à la fois d'élus et de citoyens. Après tout, les citoyens sont eux-mêmes en capacité de faire leur choix. Mais on retrouve ça aussi dans l'épisode autour des protocoles sanitaires. C'est-à-dire que la décision vient du ministère, arrive un dimanche soir à 21h, sans même consulter ce qui se passe sur le terrain, sans même partir du terrain et associer le terrain dans la construction des décisions publiques. En fait, derrière, on a une drôle de démocratie. En fait, on a une démocratie très centrée sur les élus et une démocratie très centrée sur l'exécutif, parmi ses élus, ce qui est quand même un peu troublant parfois, et qui clash en fait avec cette culture de citoyenneté dont je vous parlais. Il faut bien avoir en tête qu'on n'a jamais eu des citoyens aussi informés et surtout aussi éduqués, capables de prendre des décisions. Et on a une forme de paradoxe qui fait qu'on a quand même l'impression que pour l'instant, on les laisse à côté des décisions.
Un petit mot des primaires, parce que on voit que en France, on a parfois un petit peu de mal à organiser l'avant-match. La droite a réussi à organiser sa primaire, les écologistes aussi. La gauche, maintenant, est confrontée à cette question de la primaire populaire. Ça part d'un bon sentiment. Qu'est-ce qu'il faut en penser?
Alors, ça part d'un bon sentiment dans le sens que ça vient d'une organisation citoyenne. Une organisation qui voulait justement dépasser des primaires organisées par les partis, sachant qu'aujourd'hui, les partis français, et ça, on a un certain nombre de collègues qui le montrent bien, sont devenus des partis de professionnels, d'élus, de collaborateurs d'élus, et de gens capables de gérer les sondages, etc. etc. Donc, effectivement, l'ancrage dans la société des partis, ce sont désormais des partis hors sol. Donc, essayer d'organiser des primaires qui remettent les citoyens dans le jeu, ça pouvait avoir un sens. Maintenant, il faut bien voir que
ça arrive
janvier,
un peu tard.
C'est un peu tard. Sans débat entre les candidats, et puis surtout sans candidat acceptant, à part Christiane Taubira, de participer ou de se soumettre à ce vote des primaires.
C'est-à-dire être candidat à l'insu de son plein gré, c'est un petit peu ce qu'on a aussi.
C'est ça, et puis surtout, il faut bien voir qu'aujourd'hui, la campagne est étonnante. Dire qu'on est dans une forme d'ambiguïté avec un président qui réfléchit à devenir candidat, alors que bon, c'est un peu un secret de polichinelle.
Ils l'ont tous fait. Hein.
Voilà, ils l'ont tous. Oui, tout à fait.
C'est une, un grand classique.
Ils l'ont tous fait, mais simplement, on se rend compte qu'en plus, il y a une vraie difficulté à installer un débat sur l'ensemble des enjeux que mettent en avant les Français. Alors effectivement, on parle d'intégration, on parle d'immigration, on parle d'identité. J'ai pas beaucoup entendu de questions sur les inégalités sociales, sur le pouvoir d'achat, j'entends pas grand-chose non plus. Sur l'environnement, on parlera d'insécurité, mais on parle pas de l'environnement qui sans concerner autant les individus. Donc, il y a un vrai souci. Et puis surtout, on ne voit pas quelles sont les différentes propositions. En fait, on peut comprendre le désintérêt actuel des mesurés dans les sondages et les anticipations plutôt de faible participation à cause de ça. Si vous faites une campagne, elle est là pour éclairer.
Voilà. On est bien d'accord. Alors, vous publiez dans le dernier numéro de la revue Esprit un article intitulé « À force d'y croire, la France s'est-elle droitisée ?» Vous venez d'énumérer un certain nombre de sujets de débat, ce qui peut laisser croire effectivement que c'est le cas. Quand on regarde les sondages, alors on va les relativiser, puisqu'on a parlé tout à l'heure du taux de participation et que même en matière d'intention de vote, il faut relativiser tout ça. Mais n'empêche que la gauche, quand on la prend dans sa totalité, totalise à peine 30% des intentions de vote. La droite de la droite est à 30% aussi. Emmanuel Macron est donné systématiquement au deuxième tour. Je ne suis pas sûr que vous le classiez forcément à gauche, Emmanuel Macron, Vincent Tibéri. Très sincèrement, il n'y a pas une droitisation quand même du paysage politique en France?
Alors, déjà, on a quand même quelque chose d'assez intéressant. C'est que la droitisation, elle est mesurée sur des intentions de vote, notamment. Et il faudrait quand même, à un moment, avoir une vraie réflexion autour des sondages, et notamment des sondages par Internet. Il faut quand même bien voir qu'au moment des régionales, ces sondages ont systématiquement surdéclaré le vote FN. De 4 points, bon c'est dans la marge d'erreur, c'est pas très grave, mais jusqu'à 9 points dans 4 grandes régions, ce qui est quand même assez énorme.
En partant du principe que les gens n'osaient pas forcément avant dire qu'ils votaient à l'extrême droite.
Et donc par Internet, désormais ils osent. Mais il faut quand même se poser cette question qui fait que dans certaines enquêtes, et notamment le baromètre de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, on mesure à la fois des attitudes à l'endroit du racisme et de la xénophobie en face à face et par Internet. Et il y a un écart entre les deux échantillons qui sont pourtant constitués avec les mêmes quotas de parfois 9 à 16 points en termes de placement gauche-droite. En termes de déclaration d'une proximité avec le Rassemblement national, on est parfois à 6 points de plus. Et enfin, il faut également se dire qu'en ce moment, les intentions de vote sont construites à partir des gens sûrs d'aller voter. Or, qui sont les gens sûrs d'aller voter? Plutôt les gens qui, sociologiquement et générationnellement, sont plutôt à droite. Ce que ça nous raconte, cette faiblesse de la gauche dans les intentions de vote, c'est aussi une désaffection des électeurs de gauche à l'endroit de l'offre qui leur est actuellement proposée. Et donc, ça plus ça plus ça aboutit effectivement à une montée, à une impression de droitisation dans les sondages. Mais il faut la relativiser. En fait, à mon sens, il faut aussi voir que, pour moi, la droite, c'est le dernier camp qui reste debout, parce que justement, il y a une vraie crise de représentation qui a atteint des paliers extrêmement impressionnants, notamment en termes de proximité partisane, notamment en termes de capacité à se situer sur l'axe droite, ou à vouloir se situer sur l'axe droite. Mais la vraie différence, c'est que la droite est moins touchée par cette crise, sociologiquement, que la gauche. Et donc, il faut s'interroger sur ça. Quand on regarde, par exemple, les valeurs, quand on demande aux gens, est-ce que vous êtes pour plus d'État, est-ce que vous êtes pour plus de redistribution, est-ce que il y a trop d'immigrés en France, est-ce que les Français musulmans sont des Français comme les autres, etc. On se rend compte que la gauche est beaucoup moins, enfin en tout cas la gauche des valeurs est beaucoup moins dans les choux qu'on ne le pense. En termes de tolérance à l'endroit des minorités, on est particulièrement haut dès lors qu'on mesure dans le temps, c'est-à-dire qu'on ne regarde pas juste une question sur le grand remplacement sans se poser la question des rappels historique, mais bien des enquêtes qui permettent de revenir aux années 90.
Alors, à propos de grands remplacements, Marine Le Pen et Éric Zemmour sont plus ou moins sur le même créneau, n'ont pas forcément les mêmes électeurs. Est-ce qu'on peut dire ça? Est-ce qu'on peut se risquer à se dire que l'électorat potentiel d'Éric Zemmour est moins populaire que celui de Marine Le Pen et que ce sont des voix qui pourraient s'additionner à la fin?
Alors, c'est en partie vrai et en partie faux. En partie vrai quand vous regardez effectivement les seconds choix, c'est notamment l'enquête Ipsos pour le Cevipof et la Vigie qui le montrait. Effectivement, le deuxième choix des électeurs de Marine Le Pen, ça serait plutôt Éric Zemmour à 40% et inversement. Néanmoins, il faut bien voir que c'est effectivement deux blocs. Par exemple, Éric Zemmour, c'est un vote de personnes âgées. C'est-à-dire que plus vous montez en âge, plus le vote pour Éric Zemmour progresse. C'est aussi plutôt un vote de classe moyenne, voire de classe supérieure. Donc âgé, supérieur, plutôt des hommes. Éric Zemmour, il va vraisemblablement nous permettre de montrer qu'il va y avoir un gender gap, hein, de ce point de vue-là. C'est-à-dire qu'il va y avoir une vraie différence entre les hommes et les femmes, de ce point de vue-là. Et puis, Marine Le Pen, elle reste effectivement
un
ancrage plus populaire, un ancrage générationnellement un peu plus jeune. Mais d'ailleurs, on peut se dire que si jamais la présidentielle ne mobilise pas, ça sera au détriment de Marine Le Pen et plutôt en faveur d'Éric Zemmour.
Mais en tout cas, c'est ce que je vous disais, ça peut s'additionner à la fin.
Ça peut.
C'est pas sûr, mais ça peut s'additionner à la fin. Cette campagne présidentielle ne va pas se dérouler dans les conditions habituelles, évidemment. En raison de la crise sanitaire, il y aura des meetings, il y en aura moins. Il y a évidemment des tensions, en plus, du fait de cette crise sanitaire, du fait du pass vaccinal. Il y a des reportages, des tensions, y compris dans la population, dans certains endroits, une tension de plus en plus perceptible entre les citoyens eux-mêmes. Exemple avec ce reportage signé Boris Loumagne à Dieulefi, dans la Drôme.
C'est dans une ruelle à l'abri des regards que j'interroge Anita. Anita, c'est un prénom d'emprunt. La jeune femme préfère témoigner anonymement.
Moi, personnellement, ce que je trouve difficile, c'est d'admettre que je suis vaccinée. Avec les personnes que je fréquente, c'est un peu, je suis un peu bizarre. Je dois me justifier, c'est pas simple.
D'après Anita, les non-vaccinés autour d'elle sont majoritaires, alors elle se sent parfois bien seule, comme lors de ce spectacle avec passe sanitaire obligatoire.
À Noël, ouais, j'étais un spectacle pour enfants avec mes enfants et on était trois familles. Et comme ici, la plupart des personnes ne veulent pas suivre les règles, ils sont un peu confinés chez eux, dans des cercles entre eux.
Oui, des clans se forment. Exemple, dans l'avenue principale, deux bars. L'un est pro-pass sanitaire, l'autre est anti-pass. Et des clients non vaccinés peuvent consommer en terrasse. C'est le cas de Virginie.
On n'a plus de liberté. Les gens stigmatisent les non vaccinés. Il y a des tensions, oui.
Et Virginie retrouve ici des gens essentiellement non vaccinés ou anti-pass, comme le barman Cédric.
Dose de rappel après dose de rappel. Certains en ont marre, certains en sont très contents. Ça crée des litiges entre les gens, obligatoirement les vaccinés, les non-vaccinés, ça devient très complexe parce que ça touche des amis proches. Mais oui, il y a des gens qui s'éloignent de moi, des gens que je voyais régulièrement et des gens qui ne veulent plus m'accueillir chez eux. Et avec l'histoire du pass vaccinal, alors là, c'est la folie.
Et donc, à quelques mètres de là, le bar pro-pass sanitaire, Thérèse, la patronne, en conflit souvent avec des non-vaccinés qu'elle connaît pourtant bien.
C'est très compliqué, on se fait souvent réprimander. Insulter, c'est arrivé quelques fois. Voilà. C'est compliqué parce qu'on les connaît tous, on les aime bien et justement, ils abusent de ça en disant « Allez, on se connaît, sois sympa ».
Et face à ce climat délétère, Anita, la jeune femme, souhaite quitter la commune. Cédric, le barman, veut changer de métier.
Voilà, on voit les conséquences de cette crise à tous les échelons, hein, Vincent Tibéri. Je ne sais pas si vous souhaitez réagir. Sinon, moi j'ai une petite question sur le macronisme parce que j'ai vu que vous aviez mis en place un enseignement sur le macronisme à Sciences Po Bordeaux.
C'était juste un cours. Hein.
C'était juste un cours. Vous le classez où, le macronisme ? À droite ?
C'est très très compliqué, en fait, effectivement, parce que...
Et à droite et à gauche ?
Alors, il fut un temps où c'était et à droite et à gauche. Je pense que quand vous regardez la perception du côté des électeurs, vous avez certains électeurs de droite qui continuent à penser qu'Emmanuel Macron est de gauche, mais c'est désormais une position minoritaire. C'est-à-dire que l'essentiel des répondants qu'on leur demande de placer sur un axe gauche-droite, ce qui veut dire que ça continue à travailler, hein, comme catégorie, ils le placent plutôt au centre-droit, voire très à droite. Enfin, voire à droite, pardon. Donc, mais le macronisme, ce qui est intéressant, c'est de se dire, c'est quoi en termes d'idéologie? Et je suis pas sûr, Thomas Legrand, sur votre antenne, continue à essayer de le définir. Il a toujours du mal. Voilà, il y a une forme. Parfois, je me dis qu'il y a une forme de politique à Astérix, c'est-à-dire qu'il faut regarder effectivement dans les détails de la politique ce qu'il compte mettre en place. Mais en tout cas, une des vraies différences par rapport à 2017, c'est que désormais il y a un bilan. Et donc, il sera jugé sur ce bilan, notamment au moment des législatives. Pas sûr que les députés marcheurs réussissent aussi bien qu'en 2017 à récupérer à droite quand ils étaient opposés à un candidat de gauche et à gauche quand ils étaient opposés à un candidat de droite.
Et ça aussi, on continuera à en parler tout à l'heure.
Si j'étais un oiseau, petit oiseau.
Voilà, le titre s'appelle Oiseau. C'était Laurent Dardenne, Tigre d'eau douce, Bertrand Belin, choix musical de Djoubaka.
France Inter, le 18-20, Claire Servageon.
Toujours en compagnie de Vincent Tibéry, professeur à Sciences Po Bordeaux. À cette heure-ci, Vincent Tibéry, on dit un petit mot de l'invité. Vous avez 46 ans, bientôt 47, bon, non, mais vous êtes jeune, vous venez de Charente-Maritime,
tout à fait.
De Sainte, c'est là que vous avez grandi. Vous avez fait Sciences Po à Paris, et puis vous êtes passé par les États-Unis,
oui, tout
par
à fait.
L'université de Stanford. C'est important l'expérience américaine ?
Ah, je pense que c'est une expérience extrêmement enrichissante pour moi. C'est-à-dire que ça a été effectivement le moment où j'ai pu effectivement me rendre compte que quand on travaille sur les inégalités sociales, il ne faut pas que travailler sur les inégalités de classe, il faut aussi travailler sur les inégalités de genre, d'origine, etc. Ça a été la découverte que d'un autre modèle intellectuel, d'une autre pratique de la science politique et de la sociologie, ça a été une sacrée bouffée d'air frais et puis qui m'a permis de revenir en ayant plein d'idées.
Donc vous faites partie de ceux qui sont allés voir aux États-Unis ces nouvelles formes d'études qui font tellement peur à certains ici, notamment à notre ministre des Universités, à notre ministre de l'Éducation nationale, qui s'inquiète de cette tendance effectivement au wokisme. On a vu ce qui s'est passé il y a quelques jours avec ce colloque à la Sorbonne. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui s'en inquiètent ? Qu'est-ce qu'on en dit à Sciences Po Bordeaux d'ailleurs ?
Alors, il faut quand même bien avoir en tête que derrière, c'est aussi la possibilité pour une sociologie d'avoir une approche multifactorielle. C'est-à-dire que pendant un temps, on reprochait à la sociologie d'être uniquement axée sur les questions de classe et d'être dans une forme de réductionnisme. La classe sociale, elle continue à jouer. Mais derrière la classe sociale, c'est aussi le diplôme, c'est aussi le revenu, c'est le type de contrat, etc. Donc on sait, les spécialistes de la stratification sociale savent désormais aller beaucoup plus loin que simplement l'opposition entre cadres et catégories populaires. Et donc, de ce point de vue-là, des gens comme Camille Penny, comme Philippe Coulangeon, comme d'autres, vous montrent ça de manière très très intéressante. Et à côté de ces dimensions sociales, on ne peut pas oublier d'autres dimensions. Une femme cadre n'a pas la même vie qu'une femme ouvrière. Un enfant d'ouvrier dont les parents sont d'origine du Maghreb n'a pas la même vie que qu'un enfant d'ouvrier dont les parents n'ont pas d'origine étrangère. En fait, c'est permettre de beaucoup mieux comprendre comment les inégalités se conjuguent, parfois se réduisent. Typiquement, Mathieu Hichou, un très bon collègue et jeune collègue de l'INED, a très bien montré que notamment dans les familles immigrées, qui ont pourtant des niveaux de diplôme inférieurs au reste de la population française, il y a une réussite scolaire extrêmement importante parce que justement, les enfants de l'immigration et les parents de l'immigration donnent énormément d'importance au fait de réussir à l'école. Et donc, contrairement à ce qu'on entend très souvent, dès lors que vous utilisez donc deux variables, l'origine, la classe sociale, vous vous rendez compte qu'on est loin d'en avoir fini avec une école de la République incapable de faire réussir des enfants. Et ça, c'est super important.
C'est super important et ça n'empêche pas de faire de la recherche à la française sans forcément copier les Américains. Encore un mot de ce colloque qui avait lieu à la Sorbonne les 7 et 8 janvier. Son titre, après la déconstruction, reconstruire les sciences et la culture. Votre collègue François Dubé, qui est professeur de sociologie à l'Université de Bordeaux, il a signé une tribune dans les colonnes du Monde cette semaine et il a parlé d'un maccartisme soft.
Il a raison. Ce qui est très troublant, c'est que ces gens qui se sont mobilisés pour essayer de contrecarrer quelque chose qu'ils voient comme étant une entreprise hégémonique, n'utilisent pas les catégories de la sociologie ou de la science politique. Ces gens-là ne publient pas dans nos revues, ne se confrontent pas, n'utilisent pas des données pour vérifier, pour nous dire si on a tort ou pas. Vous savez, faire de la science, c'est avoir des règles. C'est avoir des règles. Moi, quand j'énonce quelque chose, j'essaye de prouver ce que j'énonce. J'utilise des données, et ces données, elles sont accessibles, elles peuvent être remises en question, et c'est ça qui est intéressant. La démarche scientifique, c'est ça. Et donc, ces gens-là, très clairement, se sont abstraits de ces règles que pourtant, nous, on s'impose.
Alors, vous avez fait votre thèse, je crois, sur la différence entre la présidentielle aux États-Unis et en France, sous la direction de Nona Meyer.
Tout à fait.
C'est toujours aussi vrai, cette différence d'approche
Alors, je pense qu'il y a des choses assez similaires. C'est-à-dire que dans les logiques du vote, on retrouve des choses. On retrouve effectivement aussi cet embrouillamini entre les personnalités, les programmes, les positions politiques, etc. Mais quand vous faites le pas de côté, voter aux États-Unis, vous vous rendez compte que certaines des choses qu'on voit aujourd'hui en France se sont déjà produites. Vous voyez, typiquement, les effets de polarisation produits par les réseaux sociaux, mais aussi par les chaînes d'information continue, les Américains ont commencé à l'expérimenter dans les années 2000, et donc ils se sont interrogés sur ces questions-là. C'est ce qu'on appelle la polarisation, et aux États-Unis, ça a pris des proportions telles que les démocrates et les républicains ne sont même plus capables de vivre ensemble dans certains cas.
Alors, vous avez travaillé pendant plusieurs années pour le CEVIPOF à Paris, puis vous avez rejoint le Centre d'études européennes de Sciences Po. Vous avez travaillé avec Richard Descoings, l'emblématique directeur de Sciences Po Paris, aujourd'hui disparu, celui qui a tenté de diversifier le recrutement des étudiants en sciences politiques. C'était un précurseur. Vous, vous êtes parti à Bordeaux où vous interrogez justement sur le recrutement des étudiants en sciences politiques. Je crois que vous avez réussi à modifier l'algorithme de Parcoursup pour diversifier justement leur recrutement. J'ai fait un raccourci en disant
non,
ça.
Non, c'est tout à fait vrai. En gros, ce travail sur la démocratisation, c'est quelque chose qui m'a interrogé à l'époque où j'étais étudiant à Sciences Po Paris, où j'étais encore un sud-étudiant à l'époque, et effectivement, c'était très frappant de constater au moment où Richard Descoings arrive, il y a une enquête de la Sofres et l'institution dit finalement on s'est ouvert, on n'a que 10% d'enfants d'anciens de Sciences Po et on a 60% de provinciaux. Sans se poser la question des origines sociales, sans se poser la question de la représentation de la diversité, qu'elle soit d'origine mais qu'elle soit aussi territoriale. Et en fait, on se rend compte que à Sciences Po Paris, on avait 80-85% des étudiants dont les parents étaient cadres aux professions intellectuelles supérieures, ce qui est énorme. Et donc, une grande partie de mon militantisme universitaire a été notamment d'essayer de comprendre et d'essayer de produire, de proposer des changements. Et avec Richard Descoings, on a tenté de travailler sur les épreuves, etc. Et en fait, l'élément le plus marquant, le plus efficace pour l'ouverture sociale, ça a été les algorithmes de Parcoursup. Parce que les algorithmes, c'est pas juste un truc dans l'absolu. C'est des choses qu'on calcule à partir des dossiers scolaires des candidats. Et en fait, en utilisant, c'est très technique, mais en utilisant l'écart à la moyenne, eh bien, ça a été plutôt que ce que propose Parcoursup, qui est la note brute. Eh bien, j'ai réussi à ce que, à Sciences Po Bordeaux en tout cas, on ait beaucoup plus de boursiers du secondaire, qu'on ait beaucoup plus d'élèves issus des territoires non urbain. Et de ce point de vue-là, j'ai l'impression que Parcoursup, qui est très souvent décrié, qui est très souvent vu comme quelque chose d'anxiogène pour les élèves, et c'est une épreuve, Parcoursup. Et bien, parfois, dans certains contextes, dès lors qu'on s'empare des algorithmes et qu'on considère que les algorithmes, c'est pas juste un instrument neutre, mais c'est bien quelque chose de politique, et bien, on peut agir sur le réel et réouvrir nos élites.
Ben voilà, ça c'est noté. Vincent Tibéri, vous enseignez, je le précise, donc à Sciences Po Bordeaux, à l'École nationale de la magistrature aussi, je crois, vous formez les futurs magistrats aux enjeux des préjugés racistes, en tout cas.
Une fois par an, deux heures.
À la lutte contre les discriminations. Je rappelle, Vincent Tibéri, le titre de votre dernier livre dont on parlait au tout début de cette émission, qui est paru ce livre cette semaine, Extinction de vote pour l'interrogation aux presses universitaires de France, ouvrage collectif coordonné avec Tristan Haute, à lire de toute urgence, évidemment, avant les échéances électorales à venir. Un très grand merci à vous, Vincent Tibéri.
Merci.
Voilà, sachez qu'à partir de la semaine prochaine, dans cette émission, on aura une chronique tous les vendredis. Elle sera signée Vincent Martini, qui est un de vos confrères, professeur de sciences politiques lui aussi. Il viendra nous parler politique chaque semaine dans cette émission.